Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. De grandes enquêtes sont au sommaire de cette édition de mars 2026. Le premier volume, qui est un gros volume important, « La gloire d'Antioche » par le hiéromoine Élisée, c'est paru au Cerf. Le deuxième, c'est « Malgré tout ce qui nous sépare », où nous retrouvons Sophie Talmen chez Albin Michel, que je vous ai déjà présenté. Le troisième livre, c'est « Le banc », c'est un roman, « Le banc » de Géraldine Smith, une merveille à découvrir, qui est paru chez Albin Michel. En quatrième position, j'ai « Sombre » au pluriel, « Sombre plantation » de Nilima Rao, au vent des îles. Une pause musicale et puis un cinquième livre, « Coule le sang du désert » de Nathalie Gautreau, que nous retrouverons en 16e position. Je vais te détruire de Linwood Barclay chez Belfond. Et puis une 7e position avec L'ogre de Red Grec de Christophe Pénalan, qui vient de paraître chez Viviane Ami. Christophe Pénalan, qui est vraiment à rencontrer. Voilà. Alors, je commence par « La gloire d'Antioche » de Hiéromoine Élisée. Le Hiéromoine Élisée, qui est un grand personnage éclairé et qui vit maintenant en France. Antioche est très tôt devenu un centre majeur et très actif du christianisme. Le concile de Nicée, en 325, on consacra l'importance et le statut patriarcal, voilà, à l'instar de Rome et d'Alexandrie. Inaugurée en 341, sa cathédrale fut l'une des plus belles et vastes basiliques chrétiennes de l'Antiquité, avec coupole et mosaïque. Sa juridiction ecclésiastique s'étendait au IVe siècle jusqu'au début du Ve, sur ce qui est actuellement la Syrie, le sud de la Turquie, le Liban, la Palestine, la Jordanie et même une bonne partie de l'Irak. Elle fut malheureusement restreinte par la suite avec la sécession de l'Église d'Orient, dite nestorienne, et l'érection du patriarcat de Jérusalem. Et aussi malheureusement, la ville chrétienne ne s'est jamais entièrement remise du terrible tremblement de terre de 526 qui aurait fait 250 000 victimes pour une population de 400 000 habitants. L'empereur Justinien entreprit de la rebâtir, mais sur une échelle plus restreinte. Ce fut le chant du cygne de l'Antioche chrétienne antique. Dans ce livre, c'est le patriarcat d'Antioche durant l'Antiquité tardive qui nous intéressera. ces populations d'origine ethnique très diverse parlaient essentiellement le grec et le syriaque. C'était une chrétienté prospère, fervente et vivace, au point d'en être assez turbulente. Très modestement, les chapitres qui suivent sont autant d'instantanés ou de coups de sonde, mais significatifs. À commencer avec l'âge de l'Église, préoccupée d'organisation interne et d'évangélisation. On sait que les 12 apôtres circulaient, passaient, portaient la bonne nouvelle, mais ils ne restaient pas sur place longtemps. Préoccupés d'organisation interne, voilà. L'âge du Père, avec les deux premiers conciles écuméniques, suivi par l'âge du Fils et son élaboration doctrinale christologique, et enfin l'âge de l'Esprit, qui voit le développement de la spiritualité et aborde à la fois vécu des chrétiens. C'est un ouvrage central qui retrace les visages et courants du christianisme antiochien avant l'islam. À l'heure où, aujourd'hui, à l'heure où l'ombre menace les chrétiens d'Orient, ressusciter l'épopée d'Antioche devient alors un impératif. Et ce foyer de lumière qui a sculpté les premiers siècles de la foi nous livre ici, dans cet ouvrage magistral, tous ses secrets. Contre l'oubli qui gagne, cet ouvrage dépasse l'enquête historique pour s'affirmer comme un manifeste de survie. Ce faisant, notre guide, le hiéromoine Élisée, explore, en grand spécialiste qu'il est, les tumultes théologiques d'autrefois. Loin d'être de simples querelles, ces débats révèlent la vitalité et la créativité fulgurante d'une cité où se forgeait l'avenir de la foi. C'est ici, dans ce creuset brûlant de la pensée, que la doctrine chrétienne a retrouvé sa précision et sa force. À travers le portrait de figures légendaires ou de personnalités hautes en couleur mais moins connues, se découvre une tradition liturgique et spirituelle d'une rare intensité. Plus qu'un livre d'histoire, voici un hommage vibrant aux générations qui ont préservé ce trésor millénaire au prix de 1000 épreuves. Une plongée donc magistrale aux sources d'une foi menacée pour que l'Orient ne devienne pas un simple vestige du passé. Notamment avec deux exemples célèbres, le premier d'Ignace d'Antioche, avec une pensée de l'unité qui le caractérise. Le deuxième, c'est Théophile d'Antioche et l'apologétique chrétienne. Puis, malheureusement, il y a eu la crise arienne au prisme des conciles antiochiens, une longue période pleine de tumultes et de malentendus. Que retenir de cette incursion dans les méandres de débats aussi passionnés que complexes, il faut bien le dire. En fait, ce chemin tortueux, en apparence, suit une certaine logique qui transparaît dans le déroulement chronologique des conciles écuméniques. les deux premiers ont établi la statue divine du Christ, oui, statue divine du Christ, et il en aurait fallu cinq autres pour définir la nature de son humanité, et surtout les modalités d'union entre ces deux réalités, réalités qui le caractérisent. Le point central en est sa double consubstantialité, avec le Père pour pouvoir nous diviniser, faire de nous des enfants de Dieu, et avec nous pour pouvoir nous atteindre et nous assumer tout entier. On voit aussi se destiner, avec toutes les nuances et exceptions de rigueur, l'orientation, malheureusement, de deux familles d'esprits. L'Orient gréco-arméen, dont le point de départ est toujours celui des personnes et des relations entre elles, c'est l'aspect sémitique, et puis l'Occident latin, héritier du génie du droit de l'ancienne Rome, qui est plus réceptif à la définition des natures. Cela explique que ce dernier a été beaucoup moins sensible au danger du modalisme qui dissolvait les personnes divines, tandis que le premier s'est obsédé sur le péril de l'essentialisme nestorien. Le résultat n'en est pas moins un état de schisme qui perdure jusqu'à nos jours. Dans la troisième partie de cet ouvrage magistral, il nous parle longuement de Jean Chrysostome, un grand pasteur, père de l'Église, et à travers les homélies sur, voilà, à travers ses homélies sur les statues, et puis aussi la folie de la croix, avec saint Siméon Salos et la vie chrétienne en Syrie du 5e au 7e siècle. Donc, c'est vraiment un ouvrage très, très important. Membre de l'Église grecque melkite catholique, le hiéromoine Élisée a enseigné au séminaire arménien grégorien de Jérusalem et au Liban, à l'Institut théologique Saint-Paul et aussi aux universités du Saint-Esprit à Caslic et à Saint-Joseph de Beyrouth. C'est donc avec passion et savoir-faire qu'il nous raconte tout cela avec simplicité et érudition. Voilà. C'était pour la gloire d'Antioche, le hiéromoine Élisée qui vient de paraître au Cerf, 357 pages et 27 euros. Voilà. Alors le deuxième livre, c'est un roman, mais qui est une enquête quand même. C'est malgré tout ce qui nous sépare, je vous expliquerai le titre, c'est de Sophie Talmen et ça vient de paraître chez Albin Michel. Alors que la guerre sépare et interdit parce que nous sommes en 1944. Un amour tente d'exister sur une île, prise au piège de la trahison, de la peur et de l'histoire. Car même si ce roman est une fiction, il repose sur des faits historiques. Ainsi, ce nouveau roman de Sophie Talmen, que je vous avais déjà présenté dans un précédent roman, rend hommage ici aux survivants et aux disparus. Nous sommes sur l'île de Groix, qu'elle connaît bien, battue par les vents et cernée par une mer devenue frontière. La guerre a figé les jours. C'est là que Sophie Talmen installe son récit. Dans cet entre-deux-monde, nous sommes entre-deux-monde, où la vie s'obstine malgré les bombes et le blocus. Bretonne Sophie Talmen est neurologue. Voilà pourquoi je vous l'avais déjà présenté pour un texte où on parle de neurologie. Elle a le souci des soins à apporter aux habitants, et cette fois, elle a choisi d'incarner Rose. C'est le personnage principal de ce nouveau roman, malgré tout ce qui nous sépare, de Sophie Dalmen. Rose est une sage-femme qui assure les naissances quand la mort rôde partout. C'est la guerre, hein, voilà. Elle soigne, accompagne, console sur une île coupée du continent, prisonnière de la poche de l'Orient, soumise aux pénuries, aux humiliations et à l'attente. L'attente de la victoire, l'attente de quelque chose. Et comme pour d'autres, sa maison, qu'elle partage avec son père vieillissant, qui est un beau personnage lui aussi, qui a bien ses réparties dans ce roman, et le souvenir d'un frère, malheureusement, un marin, qui a disparu à la guerre, voilà. Donc, cette maison a été réquisitionnée et par deux officiers allemands qui s'y installent. C'est l'ennemi, donc. Ces officiers allemands, ça représente l'ennemi. L'ennemi, donc, entre dans son quotidien, bouleverse ses repères et bouscule ses convictions. L'un des deux officiers, Joseph, est un médecin alsacien en relais de force. Voilà, donc dans le titre, un malgré nous. Voilà, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais les malgré nous donc, sont des soldats d'origine alsacienne, qui ont été obligés de partir à la guerre, donc qui parlaient bien deux langues, le français qu'ils aimaient, et l'allemand, ben, parce qu'en Alsace, on parle aussi l'allemand, ou un certain langage allemand. Voilà. Et peu à peu, ce roman, glisse dans une zone trouble, où l'intime, parce que l'intime de la vie, l'intime de cette Rose, de cette femme, de son père, et de ces deux soldats qui s'imposent, ces deux ennemis qui s'imposent, les deux officiers qui s'imposent, donc où l'intime se heurte à la violence de l'histoire. Et Sophie Dalmen interroge avec une grande délicatesse ces lignes de crête où tout vacille et où l'amour peut surgir contre toute attente. Ce qui surprendra en bien Rose et Joseph, car ils vont vraiment se rencontrer et même s'aimer. Voilà. Je n'en dis pas plus, vous le découvrirez en lisant son bon roman, malgré tout ce qui nous sépare, de Sophie Dalmen, 305 pages, 20,90 euros, qui vient de paraître chez Albin Michel. Porté par une écriture attentive et juste, ce roman rend hommage aux survivants, car il y a bien eu des malgré nous qui sont venus sur cette île et qui ont disparu parce qu'il y a eu un bateau qui a fait naufrage. Et ont disparu dans un monde où l'amour et l'amitié résistent à la brutalité de l'histoire. Voilà, un très très beau roman de Sophie Dalmen. Et je passe à un troisième roman, qui est Le Banc, qui est une découverte parce que je ne m'y attendais pas. Merci Albin Michel, qui me l'a fait parvenir. C'est de Géraldine Smith. Avec Le Banc, Géraldine Smith signe un premier roman policier. Voilà. Il y a une enquête policière. Et c'est hautement humain. Le décor peut sembler modeste, celui d'une résidence, Les Merles Bleus, intitulé Les Merles Bleus. Un petit ensemble de logements de 3 étages et sa centaine d'habitants qui logent ici depuis 5 ans. Il y a un jardinier, donc autour un jardin, C'est un jardinet en région parisienne. On n'est pas très loin de Paris, mais on n'est pas à Paris. Un banc, un peu bancal, où trois vieillards prennent racine, comme on occupe un dernier territoire. Il y a Georges Muca, qui est le personnage principal de ce roman, enfin avec Rose, mais qui est le personnage. Il a 95 ans, voilà. C'est déjà un âge avancé. Il y a Marcel, 89 ans, et Jean-Marc, jeune retraité de 70 ans. Ils forment un trio d'amis. Autour d'eux gravite Alain Broquet, l'homme à tout faire, le gardien de la résidence, surnommé le shérif, dont la bienveillance bourrue enveloppe les anciens surnommés les momies, et voilà, un peu drôle, qu'ils protègent comme on veille un feu fragile. Alors sur ce banc, ils dévisent gaiement de la vie comme elle va, échangent des blagues, carambars, refont le monde sans vraiment croire qu'il changera. Mais c'est aussi la période de la guerre, hein. Retrouve des poèmes enchanteurs que l'on redécouvre, ou des ritournelles. C'est une chronique douce amère, à laquelle se mêle quand même une intrigue policière, puisque j'ai dit qu'il y avait une enquête au début de ce roman. Car un bon matin, Georges ne se réveille pas. Georges Muca ne se réveille pas. Endormi à jamais, à la suite d'une overdose de somnifères. Alors, est-ce que c'est un accident, ou un suicide, ou un meurtre? L'enquête du commandant Moussa M. Ballo, d'origine sénégalaise, installe une tension policière qui n'est jamais un simple prétexte, mais une manière d'explorer la vérité des êtres. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était hautement humain que ce livre, que ce roman. Autour du défunt, les suspects potentiels, ses enfants, commencer par ses enfants, il y a Isabelle, sa fille, il y a Paul, son fils, et puis on parle de Marceline, sa femme, qui est morte depuis 5 ans, trop tôt disparue. Il y a aussi des personnages imperdés. Il y a son auxiliaire de vie, Mariola, toute dévouée, presque maternelle, sauf quand elle est en vacances, quand elle n'est pas là. Voilà. Il y a Chantal, la lectrice chapardeuse, qui aime bien prendre des choses. Oui. Alain, ou même Abdel, le marchand de frites du parking. Tous ces personnages autour de ces anciens compose une galerie de personnages ordinaires et profondément humains. Au long de longs flashbacks, se dessine en creux le portrait de Georges Muca. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, il a été entrepreneur, il a fait de grandes choses, et comment il est devenu, avec le temps, presque aveugle, et parfois sujet à des déraillements, des oublis. Mais il y a quand même une part de lucidité, trop lucide peut-être, pour accepter sa propre déchéance. Voilà, vous découvrirez ce banc. Pourtant, il y a un bel espoir final, parce que sur ce banc, il rencontrera Inès, qui est une jeune fille de 17 ans, une pounquette, comme on dit, pounquette cabossée, dont la colère et le mal de vivre trouvent auprès de lui une attention rare. Voilà, donc ce Georges Muca a pu avoir, dans un moment de lucidité, une attention rare qu'il peut porter sur Inès. Ce qui va permettre à Inès de bien rebondir. Donc, une note riche d'espoir. Oui, la vie mérite d'être vécue pleinement et jusqu'au bout. Ce banc, qui est un lieu de résistance, un refuge où l'humanité reste debout. Oui, ce beau roman vous le fera comprendre et aimer tout à fait, Le banc de Géraldine Smith, Shelva Michel, 1990, 262 pages. Et je parle maintenant d'un quatrième livre qui est aussi différent des autres. Ça s'appelle « Sombre plantation ». C'est de Nilima Rao. C'est une traduction que je dis parce qu'elle est très bien faite, cette traduction. C'est de Mireille Vignol aux éditions Au Vent des Îles. Et merci parce qu'on m'a fait parvenir ces sombres plantations et découvrir Nilima Rao. 245 pages, 21 euros. Grande voyageuse, née à Fidji et désormais installée à Melbourne, donc en Australie, Nilima Rao est une Australienne d'origine indo-fidjienne, une identité culturelle embrouillée selon sa propre définition et qu'elle démêle avec brio et sensibilité dès le premier tome, dès ce premier volume, Sombre Plantation, le premier tome des aventures de son héros, qui s'appelle Akal Singh. Donc on peut espérer en avoir d'autres. Un roman historique inspiré de l'histoire de ses arrière-grands-parents. Ce qui nous permet de redécouvrir et de suivre attentivement cette enquête aux Fidji. On a envie de regarder sur une carte pour les situer, ces îles, ces Fidji. Parce qu'on parle aussi donc de l'Australie, on parle de l'Inde aussi, enfin de différentes régions, de Hong Kong même. Une aventure qui nous plonge en 1914 dans cette colonie britannique des îles Fidji où débarque donc Akal Singh venant de Hong Kong. Vous découvrirez pourquoi il vient là. C'est un jeune sergent, voilà, Singh, qui a été qui arrive sur ces villes, sur ces îles Fidji. Et sans l'esclandre médiatisé d'un prêtre, sans la présence fortuite d'une délégation indienne aux Fidji, sans la ténacité de notre héros, qui est quand même un bon inspecteur, qui sera aidé par un complice local, un collègue local, donc qui va l'introduire sur le rythme de la vie dans cette localité, et aussi efficace, un docteur britannique humaniste qui aura son mot à dire. Alors, sans ces qualités-là de cette aventure, personne ne se serait soucié de la disparition soudaine de Kunti, une jeune femme qui est une coolie engagée sous contrat dans une plantation de canne à sucre, isolée, mais qui a disparu. Son absence, d'ailleurs, semble en arranger beaucoup depuis son mari jusqu'à son patron. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que vous découvrirez dans ce polar des paysans. Nilima Rao s'inspire donc de sa propre histoire familiale pour sillonner l'île en explorant la brutalité du système colonial d'engagisme. C'est le terme de ce système colonial. Système colonial d'engagisme. mis en place pour succéder à l'esclavage, exploitait une main-d'œuvre bon marché dans l'Empire, colonie anglaise. Un système abusif que l'on savait raciste pour tous et que l'on découvre terriblement plus cruel pour les femmes. Voilà. Donc, c'est à lire ce quatrième roman, ce quatrième livre, ce roman « Plantation sombre, enquête au Fidji » de Nilima Rao, qui vient de paraître au vent des îles. Et on peut faire une épouse, une pause musicale. On va écouter une sarabande de Georg Friedrich Händel. Belle suite pour clavecin numéro 4 de Georg Friedrich Händel. Vous avez vu comme c'était très beau cette sarabande. Academy of Saint Martin in the Field, Alexandre Briguet à la tête. Oui, c'était très beau. Et alors, la cadence, voilà. Bon. Maintenant, un cinquième roman. Écoule le sang du désert, oui. C'est des titres un peu terribles. C'est de Nathalie Gautreau qu'on retrouve, parce que je vous l'avais déjà présenté pour un premier roman qu'elle avait publié déjà au Rouergue Noir. Voilà. Ce deuxième livre, Nathalie Gautreau, qui est née en 1970, exerce le métier d'assistante juridique et vit à Grenoble. Avec ce nouveau roman haut en couleur, qui se situe en partie à Lyon et à Grenoble, confirme son grand style de roman policier. Alors, il y a un premier personnage, Léa Francourt, qui est le maillon faible d'une bande de dealers, voilà. C'est le sujet de ce grand roman. Le deal, voilà, il y a des dealers, des trafiquants de drogue. Le sujet de ce roman. Donc, dans la ligne de mire, elle est, Léa Francourt, dans la ligne de mire de la police. Cette jeune fille fragile, malmenée par l'existence, que ses aveux, mettent dans le plus grand danger, parce qu'on on risque de vouloir l'éliminer, émeut une flic, qui est la capitaine Fanny Costa, celle qui mène l'enquête, Fanny Costa. Et pour défendre celle qui n'est encore qu'une gamine, elle fait appel à maître Louise Parizet, que nous retrouvons, on l'avait déjà découvert, cette Louise Parizet, et qui est une avocate pénaliste du barreau de Lyon. Voilà, elle connaît très bien aussi Lyon, et on découvre Lyon. Au même moment, une série d'exécutions sanglantes sur le point de deal laisse penser à une guerre de territoire. Et derrière ces meurtres se cache un tueur, surnommé le Libyen. Qui est-il ? C'est le nœud de l'intrigue de ce roman. Car l'homme qui se cache sous cette identité est arrivé clandestinement du Sénégal. Voilà. Elle aime beaucoup le Sénégal. Elle semble bien le connaître parce que, exactement comme son personnage, le deuxième personnage, donc il y a la capitaine Fanny Costa, il y a Louise Parizet, le maître Louise Parizet, et puis il y a Kofi Diallo. Et Kofi Diallo vient aussi, c'est un jeune assistant qui vient du Sénégal, qui a fait plusieurs petits boulots avant de devenir le jeune assistant qui débute au cabinet de maître Parizet. Donc il avait fait, comme je l'ai dit, plein de petits métiers, parce que arrivé ici en France, il se doit de faire des économies et d'envoyer de l'argent à sa famille restée au Sénégal. Donc dans ce deuxième roman, prenant en fine observatrice du monde de la justice actuelle, eh bien Nathalie Gautreau nous plonge dans le monde du narcotrafic et de ses esclaves modernes, que je vous laisse découvrir, bien sûr. Elle nous raconte aussi une histoire de fraternité, car Kofi Diallo est chargé par sa famille qui est au Sénégal, de retrouver son jeune frère qui a disparu, qui est parti, qui s'appelle Demba Diallo, parti vers l'Europe pour suivre l'exemple de son frère aîné, Kofi Diallo. Mais où est-il passé? Ça, on ne sait pas. On le découvrira, bien sûr, dans le livre. Ceci, par-delà les routes de l'exil, et tenter de faire fortune. Oui, ce nouveau roman de Nathalie Gautreau est bon et fort roman qui fait 334 pages et qui coûte 22,50 €. Alors j'ai un cinquième, sixième livre, oui. Je vais te détruire. Ah, c'est un titre explosif. Hein. T'es dur. Je vais te détruire. Et c'est de Linwood Barclay. Ça vient de paraître chez Bellefond Noir. Là, c'est un livre un peu plus important, 415 pages, 23 €. Vous voyez la traduction, bien sûr. Quel est le prix à payer pour un acte héroïque? C'est la question que se pose le personnage central de ce nouveau roman de Linwood Barclay que je vous avais déjà présenté. Ce personnage s'appelle Richard Boyle. Il connaît peut-être la réponse à cette question. Ce que l'on sait, ce que l'on découvre dans ce roman, c'est qu'il est professeur de lettres dans un lycée de l'État du Connecticut. Et il n'a pas hésité, il était dans la classe avec des élèves, et par la vitre qui était ouverte, il voit quelque chose se produire. Et donc il n'a pas hésité à s'interposer quand un personnage, mais on découvre que c'est un ancien élève qui s'appelle Marc Ledrève, armé d'une ceinture d'explosifs, est venu pour commettre une tuerie vengeresse dans l'établissement. Il a pu donc sortir de la classe, aller à sa rencontre et dialoguer avec lui, l'éloignant du lycée, hein, où suite à un accident, sa ceinture chargée d'explosifs a explosé, le blessant à mort. Mais le professeur Richard Boyle n'a pas été touché ou des éclats, mais pas grand-chose. Le courage de Richard Boyle, qui a une femme, Bonnie, qu'on voit dans ce livre, dans ce roman, et une petite fille, Rachel, qui a bien aussi son mot à dire, a permis d'éviter le pire. Mais bientôt, les journaux vont en parler de ce drame, ce qui va produire du chantage, des menaces, dont compliquer la tâche de Richard. Par exemple, les parents du jeune kamikaze l'accusent d'homicide. Et un maître chanteur appelé Billy Finster, lui ou un autre, vont lui réclamer une grosse somme d'argent. Pourquoi? Comment? Eh bien, vous découvrez, il y a beaucoup de comment dans ce roman. Comment payer sans en parler à son épouse, parce qu'on lui réclame de l'argent. Et il faut le trouver, cet argent. Donc, il avait un bateau, il faut qu'il le vende pour trouver de l'argent. Et un bon critique qui connaît bien l'œuvre de Linwood Barclay, va dire « Tout l'art de Barclay repose sur le fait que l'on tremble pour les victimes et les vrais méchants ne sont jamais ceux qu'on imagine. » Oui, donc pour Richard Boyle, c'est bien difficile de faire face à cette épreuve redoutable. On parle encore, même dans ce roman, de trafic, parce qu'il y a un gang qui veut récupérer de l'argent. On propose à des gens du fentanyl en graines, hein, cette drogue qui a du succès et qui est stockée. Donc, et pourquoi le jeune Marc Treve voulait se venger de quelque chose qu'il avait vécu, mal vécu d'ailleurs? Pourquoi dans cet établissement? Et par qui? Eh bien ça, c'est à vous de le découvrir. De même que la police, Martha Harper, avec Richard Boyle, ils devront éclaircir ce drame et mystère captivant. Ça, je peux vous dire que c'est captivant. Voilà. beaucoup de pourquoi dans ce roman qui trouve une explication finale. Alors j'ai aussi un autre roman, grand roman, qui m'est arrivé aussi, je remercie les donateurs. L'ogre de Red Creek, c'est de Christophe Pénalan, aux éditions Viviane Ami, que je connais, oui, dans une collection Chemin Nocturne. Donc, merci. Ce Christophe Pénalan, 414 pages, donc c'est un livre important, dense, 22,90 euros. Né en 1990 à Morlaix, Christophe Pénalan a étudié le journalisme à Nice. Il a couvert différents sujets, des festivals de musique, donc des faits divers en passant par le sport, l'une de ses grandes passions. Il est désormais reporter sportif au journal Ouest-France. Et ses pérégrinations l'ont poussé à vouloir s'évader toujours plus loin. Et son appétit pour les thrillers américains, construits comme des Rubik's Cube, ont motivé l'écriture d'un précédent roman qui s'appelle Eden, l'affaire Rockwell. Déjà, on avait trouvé que c'était haletant, une disparition haletante qui se transforme en une effroyable machination. Eh bien, ici, dans ce nouveau roman, L'ogre de Red Creek, Christophe Pénalan va pousser à la perfection cet art de la machination. Ça, je peux vous le dire. Car il y a une menace qui sous-tend ce récit haut en couleur, où le suspense le dispute à l'effroi. Ce roman, ce nouveau roman, L'ogre de Red Creek, est situé à Diorque. Diorque, je ne sais pas si vous connaissez Diorque, mais ça se trouve en Virginie occidentale, donc en Amérique. Nous y sommes plongés le 5 octobre 2008. Oui, il y a aussi de l'actualité que je ne rappelle pas, mais vous découvrez dans la lecture de ce texte. Le cadavre d'un lycéen, Seine-Lapierre, appelé Seine-Lapierre, est retrouvé dans les eaux de Red Creek. Le shérif, qui s'appelle Darren Campbell, et son adjoint Matt Crutchlow, s'emparent de l'affaire. Et c'est ainsi que le jeune Andrew Phillips, ancien camarade de classe de Sin, est appelé à témoigner. Ce Andrew Phillips est un adolescent introverti et passionné de cinéma. Il est incompris de sa famille et même, on peut dire, méprisé. Sa famille qui lui préfère son frère aîné, Christopher, qui est arrogant et forte tête depuis qu'il est le frère aîné préféré, donc il est arrogant et forte tête. Et puis à l'école aussi, on a même humilié Andrew Phillips. Et quand le jeune Paul Ballantyne disparaît à son tour, l'hypothèse d'un tueur en série se confirmait. Et Andrew y voit enfin l'occasion de devenir populaire, parce que grâce à des économies et la complicité d'un marchand, il a pu se procurer une caméra GoPro, une caméra GoPro avec laquelle il devient cinéaste et il filme les lycéens sportifs, voilà, et puis d'autres scènes, même plus tard, d'autres scènes parfois interdite. Vous le découvrirez. Ce qui change son statut. Et il va pouvoir donc devenir populaire et convaincre d'autres lycéens de se joindre à la traque du monstre, quitte à s'aventurer trop près des terres et de l'immense forêt où se trouve peut-être l'ogre de Red Creek. Et c'est tout naturellement que l'enquête mène les lecteurs dans deux directions un peu opposées, l'une avec la police, qui va trouver des choses, mais l'autre avec les jeunes, et tous marchent ou pédalent, parce que les jeunes ont des bicyclettes, donc tous pédalent vers une fin, avec le jeune Andrew, tous marchent ou pédalent vers une fin totalement inattendue et même insoutenable. Je peux vous le dire, c'est insoutenable. Voilà, donc je termine par ce grand roman, L'ogre de Red Creek, de Christopher Penalan, qui vient de paraître aux éditions Viviane Ami, dans la collection Chemin Nocturne, qui coûte 22,90 pour 414 pages. Et je peux vous dire, donc, bonne lecture, il y a de quoi faire avec tous ces livres présentés. Et puis je vous dis, au mois prochain, voilà, si vous voulez bien m'écouter à nouveau. Au revoir.